Dans le prolongement, je voudrais aujourd'hui parler de la compassion. Pour introduire cette question de la compassion, je vous relis juste deux versets de la parabole du bon samaritain, vous savez, qui est dans Saint Luc au chapitre 10. Un samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies et versant de l'huile et du vin. Puis le chargea sur sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Donc ici, nous avons la description de la vraie compassion. Une compassion qui non seulement nous fait éprouver, il fut pris de la fut pris de pitié, littéralement en grec, il fut ému aux entrailles. Et une compassion qui non seulement nous fait éprouver, on peut dire que compatir, c'est la capacité de partager la souffrance de l'autre, mais aussi une compassion qui nous fait porter l'autre, porter le fardeau de l'autre. Parce que ici, il y a deux choses. Il y a le fait qu'il fut pris de pitié. Ça, c'est la première chose. Il partage. Et ensuite, il s'approcha, banda ses plaies, et versant de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture. Donc, c'est une compassion qui est efficace. Compassion qui fait vraiment du bien aux âmes. Je suis arrivé un petit peu en retard parce que au catéchisme, il y avait une petite fille qui est venue me voir en me demandant s'il y avait un paradis pour les animaux. Alors je lui ai répondu comme l'Église répond traditionnellement, c'est-à-dire que seule l'âme humaine est spirituelle, seule l'âme humaine est immortelle, que seul l'homme est créé à l'image de Dieu. Et quelques minutes après, elle est revenue en pleurant, en me disant qu'elle avait perdu sa petite chatte. Je n'avais pas deviné que sa question n'était pas une question spéculative, mais était par rapport à une souffrance réelle. Et bien, je ne veux pas... J'étais bien embêté. Vous voyez, bien embêté pour la rejoindre et pour l'aider. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans mon cœur et dans le sien qui fait qu'à la fin, malgré tout, elle avait l'air réconfortée et elle m'a remercié. Je voudrais... Que l'on essaye de voir ensemble comment on peut passer d'une compassion humaine, parce qu'évidemment on peut s'apitoyer sur une petite fille qui pleure parce qu'elle a perdu son chat, mais il s'agit de dépasser simplement une compassion qui nous fait ressentir les choses au niveau affectif, au niveau psychique, pour parvenir à une compassion divine qui nous fait faire vraiment du bien aux âmes, qui serve l'œuvre de la rédemption et qui soit pas simplement une consolation passagère. en tant qu'aumônier d'hôpital, j'ai eu le temps de méditer entre une compassion simplement humaine, puis une compassion qui rejoint l'autre dans son cœur, dans son combat le plus intime, et qui laisse passer la présence du Christ, bon pasteur. Compassion qui participe à la compassion de Jésus. La première chose que je voudrais souligner, c'est que nous avons une capacité naturelle de ressentir quelque chose de ce que les autres vivent. Je vous rappelle les paroles si juste de Benoît XVI, hein, qui revient souvent sur cette question de l'interaction, comme il aime dire. Nos existences sont reliées l'une à l'autre au moyen de multiples interactions. Continuellement, la vie des autres entre dans ma vie, en ce que je pense, fais, dis, fais, réalise. Et vice-versa, ma vie entre dans celle des autres, dans le mal comme dans le bien. Donc nous avons une capacité naturelle à capter, à ressentir des choses, les animaux aussi. Mais comment passer de cette capacité naturelle qui nous fait capter les choses au niveau psychique à une compassion divine qui nous permet d'aller plus dans la profondeur, je dirais dans la profondeur des âmes, mais surtout dans la profondeur de la souffrance, dans la profondeur aussi du combat que vivent les personnes au fond d'elles-mêmes. En définitive, ça va dépendre de la pureté de l'amour, de la qualité de l'amour, puisque c'est l'amour qui nous rend proche des autres. Un Samaritain qui était en voyage arrive près de lui, le vit et fut pris de pitié, il s'approcha. Parce qu'il est mu par une vraie compassion, il peut s'approcher. Par une profonde compassion, il peut s'approcher, c'est-à-dire se rendre proche d'une manière beaucoup plus profonde encore que ne le peut la sensibilité naturelle. En vous disant ça, il me revient régulièrement une des expériences les plus douloureuses que j'ai eues comme jeune prêtre, celui de me retrouver confronté à un homme dont le père était sorcier et qui avait eu une jeunesse, je ne sais pas si je dois dire infernale, mais qui avait vraiment connu de très très profondes souffrances. Et moi, j'étais là, je l'écoutais, je comprenais dans ma tête, mais je n'arrivais pas à le rejoindre. Je n'arrivais pas à m'approcher. Je ressentais les choses simplement à un niveau humain. Et à un moment, il m'a dit, avec une force extrême, il m'a dit, « Tu ne vois pas la détresse de mon âme. » Mais non, je ne voyais pas la détresse de son âme. Je n'étais pas capable de rentrer dans une compassion divine. Je pouvais, avec mon affectivité et ma tête, m'apitoyer intérieurement sur son état, mais pas plus loin. Et Jésus nous appelle à rentrer dans la détresse des âmes avec lui, pour que nos relations, notre écoute des autres ne soit pas le fruit qu'elles portent, ne soit pas, encore une fois, une consolation passagère, mais qu'il y ait vraiment une œuvre de guérison comme dans la parabole du bon samaritain, on voit cet homme qui verse de l'huile, du vin et de l'huile, qui purifie, qui adoucit, qui soulage en profondeur l'âme dans sa détresse. Comment nous pouvons avancer sur ce chemin qui va d'une compassion toute humaine à une compassion divine qui participe à celle du Christ que Jésus a vécu sur la croix. Je pense qu'il est bon de se rappeler que l'amour en nous est inséparable. Ça, c'est Benoît XVI qui insiste beaucoup pour dire que la foi, l'espérance et la charité vont toujours de pair. C'est-à-dire l'amour véritable suppose cette première ouverture du cœur et de l'esprit qu'est la foi. Qu'est-ce que ça change que de s'approcher, plutôt de voir, puisque dans la parabole il est dit d'abord que le bon Samaritain qui était en chemin arriva près de lui, le vit. Donc, on peut dire que l'amour commence avec le regard. J'aime l'autre comme je le vois. Et qu'est-ce que change la foi par rapport à cette qualité de regard que je peux avoir sur l'autre? Si ce n'est que la foi me permet, si elle est vivante en moi, si elle est vraiment une lumière pour mon esprit, elle me permet de voir l'autre, en l'autre, l'image de Dieu, de voir cet esprit qu'il est, esprit fait pour Dieu, pour voir Dieu. Personnellement, je ressens cela beaucoup au contact des handicapés mentaux, de ressentir que j'ai en face de moi ce que mon curé m'a confié, la catéchèse spécialisée pour les enfants handicapés, et à chaque fois c'est la même chose, c'est-à-dire je ressens plus vivement qu'il s'agit d'être spirituel, c'est pas dans la tête, mais c'est progressivement un vrai regard qui donne de voir dans ces personnes qui sont quelquefois physiquement, mais surtout psychiquement diminuées, de voir leur extraordinaire dignité d'être créées à l'image de Dieu. Ça appartient à la foi de nous faire voir les choses comme Dieu les voit. C'est en voyant les personnes comme Dieu les voit qu'on finit par les aimer comme Dieu les aime. Donc réveiller la foi dans notre relation avec les autres pour ne pas en rester simplement à une sympathie ou à une antipathie ou à une appréhension de la personne selon le jugement humain, c'est-à-dire selon les apparences. Ce n'est pas la personnalité psychologique de la personne qu'il faut regarder, mais la personne elle-même, voir l'autre comme personne, comme aimait dire Jean-Paul II, voir l'autre comme personne, c'est-à-dire comme un esprit incarné, créé à l'image de Dieu pour Dieu. Voyez, souvent en présence de personnes handicapées, je me dis si la personne meurt maintenant, elle verra Dieu directement. Et elle sera très probablement plus élevée au ciel que moi. Donc cette personne qui apparemment est incapable de comprendre ce qu'on lui dit, en réalité elle a une intelligence capable de voir Dieu. Et dans la seconde qui vient, là, elle pourrait passer directement dans la vision de Dieu et être plus intelligente que tous les savants du monde réunis. Donc de percevoir ça, cette extraordinaire richesse et dignité de la personne dans un regard, encore une fois, qui s'appuie sur la parole de Dieu, mais qui devient de plus en plus un regard qui peut devenir un regard habituel. La... Voyez, le regard de la foi qui me permet de voir la dignité inaltérable, inaliénable de l'autre, peut m'éviter de tomber dans une sorte de, voyez, d'assistanat, de maternage, où finalement, quelque part, on se met toujours un peu au-dessus de l'autre. En réalité, les pauvres, ceux qui souffrent, sont d'abord exactement comme nous, des êtres qui ont d'abord des souffrances profondes de cœur, qui sont d'abord faits pour trouver l'amour et la vérité, et pas simplement pour qu'on leur serve du chocolat chaud. Je dis ça, c'est parce que mon curé m'a demandé d'être un peu l'aumônier, en tant que le prêtre qui accompagne un petit lieu d'accueil de la paroisse pour les SDF. Et je me souviens qu'une des personnes bénévoles, bien intentionnées par ailleurs, avait dit oh, de toute façon, ils ont besoin juste d'un peu de chocolat ou de choses comme ça, chaud, parce qu'ils n'ont pas besoin de rien d'autre, c'est tout ce qu'ils cherchent. Ben non. Je repense, vous voyez, à ce piège dans lequel j'étais tombé aussi comme jeune prêtre, d'un garçon qu'on avait accueilli à Tibériade, le centre d'accueil pour les personnes atteintes du sida, qui a été mon premier ministère. Dieu m'a fait cette grâce de commencer mon ministère vraiment auprès de grande pauvreté, puisque c'était le monde de la prostitution masculine. Vous rajoutez le sida, plus pour certains des emprises démoniaques, et vous êtes pas loin de toucher le fond de la détresse humaine. Et je me souviens d'un garçon qu'on avait aidé énormément à un niveau humain, dans une compassion humaine, c'est-à-dire qu'il était à la rue, il n'avait pas de travail, on a trouvé un logement et un travail, en tout cas une source de rémunération, je ne me souviens plus bien, mais en tout cas, en quelques mois, la situation pour lui s'était énormément améliorée. Et donc on a crié victoire. Vous voyez, puisque quelqu'un qui est à la rue, qui se plaint tout le temps qu'il est à la rue, qui voilà, ben, il a besoin qu'on lui trouve un logement, et puis voilà, c'est ça la charité. Ben oui, mais si ce n'est qu'une fois qu'il a eu tout ce qu'il avait, dont il avait besoin pour vivre, il s'est suicidé. Parce que l'homme ne se nourrit pas que de pain. Et probablement qu'il s'est suicidé parce qu'on ne s'intéressait plus tellement à lui puisqu'on avait fait notre œuvre de compassion. Quand je dis, vous voyez, passer d'une compassion humaine à une compassion divine, je pense à des choses comme ça qui restent gravées dans ma mémoire parce que ce sont des terribles leçons. On est passé, je suis passé à côté de la détresse des âmes. De son âme. Alors, vous rajoutez là-dessus tout un langage qui a traîné dans les années 60, 70 en disant, écoutez, avant de parler de Dieu aux personnes, il faut d'abord leur donner à manger, ils ont d'abord un estomac, il faut être incarné. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Tout simplement pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Non. Quel que soit leur état, ils restent créés à l'image de Dieu, faits pour Dieu. Ils ont besoin de Dieu, d'abord. Ils n'ont pas besoin de blabla religieux, d'accord, mais ils ont besoin de Dieu. D'être nourris par Dieu, exactement comme moi, peut-être plus que moi, qui suis peut-être dans un état de somnolence spirituelle, alors que je crois que la souffrance physique et psychique, quelque part, réveille toujours aussi, quelque part, la soif de Dieu. Enfin, je n'ose pas dire toujours, hein. C'est pas tout à fait juste sûrement, mais peut en tout cas réveiller cette soif de Dieu. Dans la lumière de la foi, donc je peux devenir plus sensible à une souffrance qui est au-delà de la souffrance physique et psychique, ce que l'Église appelle habituellement la souffrance morale, en disant plutôt la souffrance d'âme. Quand je dis la souffrance d'âme, parce que morale, on ne sait pas trop quoi. On pourrait dire une souffrance spirituelle, mais tout ça, c'est un peu ambigu. Et donc, j'utilise cette expression souffrance d'âme, parce que Jean-Paul II l'a utilisée. D'âme, en tant que notre âme est créée à l'image de Dieu. Et c'est quoi la souffrance d'âme ? La grande détresse qui peut rester cachée aux yeux des hommes et que Jésus a portée. La grande détresse, c'est d'être séparé de Dieu. Parce que c'est ça l'enfer. Séparé de Dieu, ça veut dire aussi séparé d'une vraie communion avec les autres. J'ai beaucoup appris à l'hôpital, notamment en méditant sur le cancer. Le cancer qui est le mal le plus redoutable, parce que il peut se développer sans que la personne le sente. Et donc le mal est là, mais la souffrance n'est pas là. Et si vous réfléchissez au cancer, vous percevez, vous comprenez plus facilement la différence que l'Église fait entre le mal et la souffrance. La souffrance, c'est de ressentir le mal. Et le mal, c'est la privation du bien. La personne qui ne connaît pas Dieu, qui n'a jamais goûté combien Dieu est bon, elle peut ne pas ressentir, souffrir d'être loin de Dieu. Mais malgré tout, dans le fond de son âme, il y a une détresse, mais qu'elle ne ressent pas. Euh, Souvent, on identifie le mal et la souffrance. La souffrance devient le mal. Mal absolu. C'est pas juste. Le mal, encore une fois, c'est pas la souffrance, c'est la privation du bien. Prenez la parabole de Lazare et du mauvais riche. Où est le mal le plus grand ? Dans la souffrance de Lazare ou dans l'état de l'âme du mauvais riche ? La compassion divine, c'est elle, c'est la compassion qui nous rend capable de compatir, d'avoir de la compassion pour les pécheurs, comme on dit. C'est-à-dire pour ces maladies bien plus redoutables que le cancer, qui sont les maladies de l'âme, qui provoquent non pas la mort du corps, mais la mort de l'âme, qui rongent l'âme. Vous savez, dans les Actes des Apôtres, il y a une expression terrible à propos d'Hérode. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la mort du roi Hérode. Elle est décrite, cette mort du roi Hérode. Il était en conflit avec les gens de Tyr. Hein, et au jour fixé, il rencontre... une représentation des gens de Tyr, de la ville de Tyr, hein, et il est vêtu de ses habits royaux, il se met à haranguer les gens de Tyr, et le peuple se met à crier, c'est un dieu qui parle, c'est pas un homme. Vous voyez, il est au comble de sa gloire, et à l'instant même, l'ange du Seigneur le frappa, parce qu'il n'avait pas rendu gloire à Dieu, et rongé de ver, il rendit l'âme. Rongé de ver, il rendit l'âme. Ça, c'est le cancer de l'âme. Le cancer le plus redoutable de l'âme, c'est l'orgueil. Donc je dis que le regard de la foi progressivement m'ouvre à une vérité plus profonde sur l'homme, sur le vrai mal et le vrai bien. Maintenant, intimement lié à la foi, il y a l'espérance. Qui me fait désirer ce que la foi me révèle. La foi me donne les yeux pour voir les réalités d'en haut. Et l'espérance suscite en moi le désir de ces réalités. Je peux, en entendant parler du ciel, avec un beau discours, vous voyez, me dire « Ah, ben, j'aimerais bien être au paradis » ou avoir des pensées comme ça. Par exemple, à l'hôpital, on a connu l'étudiant qui devait se jeter en hélicoptère le 11 septembre, qui devait se jeter en hélicoptère sur l'ambassade des États-Unis. Il faisait son doctorat à Paris. Un intellectuel. Ouais. Et cet intellectuel islamiste, bien, il disait qu'il n'y avait que le paradis qui comptait, quoi. Hein, que de toute façon, en mourant martyr, il allait au paradis. Et donc, dans sa tête, c'était clair. Comme 2 et 2 font 4. Mais ça, ce n'est pas l'espérance. Ça, c'est une conviction qu'on arrive à se forger parce que, ben, voilà, c'est clair, il y a l'éternité. C'est dit que si on meurt martyr, on a droit à, je dirais, à être en première place dans le paradis d'Allah. Donc les choses sont claires. Et donc, avec mon intellect, je décide d'acquérir cette première place grâce au martyr. Bon. Mais tout ça, c'est dans la tête. L'espérance, c'est quoi ? La vraie. C'est quand mon cœur profond, mon cœur d'enfant, s'ouvre à l'amour du Père, se laisse toucher en profondeur, et attiré par cet amour, par la révélation de la vérité de ce royaume, que je découvre avec une foi vivante qui ouvre les yeux de mon cœur pour me permettre de me laisser toucher par cette réalité. Celui qui espère en cette réalité, comment pourrait-il donner prise à une telle folie ? L'espérance, ce n'est pas le fruit d'une, je dirais, d'une conviction religieuse, mais c'est l'action de l'Esprit-Saint. C'est surnaturel, l'espérance. Ce n'est pas un désir qu'on fabrique, qu'on produit à force de lire des livres sur le paradis, mais c'est beaucoup plus profond. C'est un désir surnaturel. Ce n'est pas un désir qui vient de nous. C'est une grâce que d'avoir un vrai et profond désir du royaume de Dieu comme notre vrai bonheur. Celui qui a l'espérance véritable recherche ce royaume de Dieu dans son cœur déjà. Il le pressent et il le goûte déjà. Parce que dans l'espérance, par l'espérance véritable, il nous est déjà donné de goûter quelque chose de ce qu'on espère. D'où l'expression de saint Paul qui parle de la joie de l'espérance. C'est la mystique qui rétablit la religion, qui la préserve des dérives idéologiques et de qui sont tout simplement le fait qu'on vit des choses en restant au niveau de l'intellect et que à ce niveau-là, la religion, c'est dangereux. Sainte Thérèse d'Avila cite l'exemple d'un moine de son époque qui, pour voir Dieu de plus vite, s'était jeté au fond d'un puits. Elle disait que ce pauvre moine, c'était pas bon, mais elle disait que justement, c'est parce que son désir de Dieu venait de lui-même. C'était du fabriqué. L'espérance ne fait pas nous jeter au fond d'un puits pour voir Dieu plus vite. Donc, qu'est-ce que ça change, l'espérance ? On espère pour les autres pour autant qu'on espère pour soi. C'est-à-dire, cette force du désir, l'espérance est une force, parce que la force, elle est dans le désir. Hein ? Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force, dit Isaïe. Ils déploient leurs ailes comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer, ils marchent sans s'épuiser, Isaïe 40, 30. Et donc, l'espérance me fait désirer pour l'autre la vie éternelle, elle me fait servir un dessein qui n'est pas le mien, qui est celui de Dieu, qui est ce dessein de salut éternel et intégral. Et donc elle m'aide à relativiser mes petits espoirs pour l'autre. Et il est bon que je les relativise, mes petits espoirs pour l'autre. On a besoin de petits espoirs pour soi comme pour les autres, mais il est important en même temps de les relativiser. Parce que de fait, ils sont relatifs. Par rapport à la grande espérance, pour parler comme Benoît XVI. J'ai pendant des années ici à la paroisse accueilli un Africain dans l'espoir que il arriverait un jour à avoir des papiers. Je l'ai aidé matériellement, beaucoup même, dans l'espoir qu'il arriverait à s'intégrer, qu'il aurait des papiers un jour et tout ça. Et en fait, il l'a jamais eu, 15 ans après. Et quand j'ai su que son dossier était bloqué. Je n'ai pas su pourquoi. Mais en fait, c'était un faux espoir. Oui. Qui m'a fait poursuivre une chimère. Avec le recul, je pense qu'il aurait été bien préférable pour lui de rentrer de fait dans son pays, étant donné qu'il était bloqué. Et je l'ai aidé matériellement, mais spirituellement, il n'a pas cessé en fait, de se dégrader, ce pauvre homme, en se laissant... en tombant dans toutes sortes de tentations. Et moi, j'étais là en me disant, mais on va finir par arriver à voir ces papiers. Vous voyez, on poursuit l'idée, le truc. Non, attends, fixe, machin. Ben, oui, mais si ce n'est pas le plan de Dieu. La grande espérance, c'est l'espérance du salut. Elle nous permet de voir plus loin, plus haut, et de remettre les choses en perspective, comme on dit, à leur juste place. Vous allez me dire, c'est pas humain, ils ont besoin aussi d'être aidés humainement, il faut s'occuper de ceci. Ben, oui, je ne dis pas le contraire, mais on le fera d'autant mieux qu'on aura la grande espérance. Et qu'au lieu de se braquer, de rester enfermé dans des petits projets humains, on saura... précisément dans l'espérance avoir un regard de sagesse. Parce que le sage, c'est celui qui connaît la fin ultime et qui regarde les choses dans la lumière de la fin. Et c'est l'espérance qui nous fait regarder la fin. Et donc l'espérance nous rend sages. Et donc aussi souple, je dirais, souple dans l'aide que l'on peut apporter à l'autre et qui demande toujours une capacité à rectifier le tir, à s'adapter aux circonstances et donc à faire le deuil de nos petits espoirs qui sont souvent de faux espoirs. Pas toujours, mais souvent. C'est la grande espérance qui permet de donner sens aussi aux souffrances, qui fait que on peut continuer à s'occuper, à prendre soin des personnes qui souffrent et pour lesquelles il n'y a pas humainement d'amélioration, mais qui sont par contre capables de faire un chemin vers le royaume. Les personnes qui travaillaient à l'Arche, la première génération, m'a témoigné qu'au début, quand l'Arche a commencé dans les années 64-65, très vite y est arrivée la génération de 68. Donc, beaucoup de jeunes qui avaient rejeté le Christ et l'Église et qui ont voulu, avec des valeurs chrétiennes qu'ils portaient en eux, servir les plus pauvres, ne sont restés que ceux qui ont retrouvé la foi. Parce que pour les autres, comme il n'y avait pas d'espoir et qu'ils n'avaient pas d'espérance, pas d'espoir d'amélioration, ce n'était pas tenable. C'est-à-dire, ils n'étaient pas en état de voir que, de fait, ces personnes, au niveau, comme le soulignait le père Thomas Philippe, au niveau de la vie théologale, étaient capables de faire tout un chemin qui donne sens à cette activité. C'est lié à quoi, ça ? En dehors du fait qu'il y a, comme dit l'Église, l'habitude du péché, qui aveugle terriblement, c'est-à-dire un crime on appelle un autre. L'habitude du péché, pas négliger le poids de l'habitude du péché. Mais sinon, c'est lié à quoi ? Une société qui ne réussit pas à accepter les souffrants, qui n'est pas capable de contribuer par la compassion à faire en sorte que la souffrance soit partagée et portée aussi intérieurement, est une société cruelle et inhumaine. Je vais quand même... Une société qui ne réussit pas à accepter les souffrants, qui n'est pas capable de contribuer par la compassion à faire en sorte que la souffrance soit partagée et portée aussi intérieurement, est une société cruelle et inhumaine. Cependant, la société ne peut accepter les souffrants et les soutenir dans leur souffrance si chacun n'est pas lui-même capable de cela. Évidemment. Ce n'est pas la société simplement, mais c'est chacun dans la société. Et, d'autre part, chacun ne peut accepter la souffrance de l'autre si lui-même personnellement ne réussit pas à trouver un sens à la souffrance. Un chemin de purification et de maturation, un chemin d'espérance. Spéciale vie 38. La dérive de notre société, c'est la dérive de la désespérance. Et vous comprenez qu'il n'y a pas de compassion sans espérance. C'est l'espérance qui permet de percevoir un sens à l'épreuve, un sens, comme dit Benoît XVI ici, de purification et de maturation. Comme j'en ai eu le témoignage pendant 10 ans auprès de toutes ces personnes qui se soient atteintes d'un cancer ou d'autres choses, ont témoigné qu'à travers l'épreuve, ils avaient été ramenés à l'essentiel, comme ils disaient le plus souvent, certains n'étant pas croyants, mais étant quand même touchés par ce travail de rédemption qui s'opère dans la souffrance par la présence cachée, mystérieuse du Christ. Au fond, vous voyez, on est en train de comprendre pourquoi pendant des siècles, c'était des religieuses qui s'occupaient des malades. Qu'elle passait de la contemplation de Jésus souffrant dans les malades à la contemplation de Jésus présent dans l'Eucharistie, et la contemplation de Jésus présent dans l'Eucharistie, la contemplation de Jésus présent dans les malades. C'est pour ça qu'on construisait les hôtels Dieu à côté des cathédrales, parce que c'était les deux maisons de Dieu. Et que ces religieuses, ils avaient consacré toute leur vie, ils n'avaient pas ni les 35 heures, ni les vacances, ni rien. Toute leur journée, là où maintenant une infirmière reste en moyenne 4 ans de service. Au bout de 4 ans, c'est trop dur. Et ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvellent leur force. Il y a une autre force qui est celle de notre amour pour Dieu, de notre amour pour notre Dieu crucifié, qui a dit « Ce que vous faites au plus petit, c'est à moi que vous le faites. » Récemment, j'ai un ami que j'accompagne depuis plus de 20 ans, même 22 ans maintenant, atteint du sida depuis plus de 25 ans. Et qui en a assez. Assez de vivre, assez de souffrir, tout en étant profondément ami de Jésus, mais il en vient à dire à des personnes qui ne sont pas croyantes, vous avez de la chance, moi. Vous avez de la chance de ne pas croire, moi. Il m'a dit, mais je ne peux pas enlever Jésus de mon cœur de toute façon. Il ne peut pas enlever Jésus de son cœur, mais il aimerait bien avoir le droit de quitter ce monde, mais il sent bien que Jésus ne lui en donne pas le droit. Donc il continue à vivre à cause de Jésus. Bon. Et parce qu'il sent que Jésus lui demande de témoigner aussi de lui dans le monde. Et ce garçon, ça fait maintenant des semaines qu'il me dit son désir de mourir. Il y a eu un moment où Dieu m'a donné la grâce de percevoir que sa souffrance était vraiment celle de Jésus. Évidemment, on sait dans la tête que ce que l'on fait pour les plus pauvres, les plus petits, les plus souffrants, on le fait à Jésus. Mais autre chose est d'avoir la grâce d'aimer l'autre vraiment pour l'amour de Jésus en voyant Jésus souffrant. À ce moment-là, quand on perçoit la présence souffrante de Jésus, la souffrance de l'autre et celle de Jésus sont perçues comme dans un même regard, eh bien, c'est sûr que notre amour pour Jésus est une force extraordinaire pour essayer de soulager celui que nous aimons plus que tout, notre bien-aimé, comme dirait sainte Thérèse d'Avila. Voilà, mais ce n'est pas toujours donné de trouver cet élan, hein, de cet élan de cœur qui nous fait, je dirais, aimer vraiment l'autre pour l'amour de Jésus. Ça suppose la lumière de l'Esprit Saint. Mais c'est une grâce que nous pouvons demander, de pouvoir voir cette présence douloureuse de Jésus qui revit sa passion dans les membres souffrants de son corps. Alors, quand le Seigneur, à travers ce chemin de la foi, de l'espérance, ouvre notre cœur et nous permet de voir l'autre et de sentir les choses beaucoup plus en profondeur, une sensibilité divine qui est donnée, sensibilité d'un cœur habité par Dieu. Alors nous pouvons en même temps rentrer dans l'œuvre de la rédemption, pas simplement partager la souffrance intime de l'autre, ressentir cette souffrance, cette détresse des âmes, cette détresse cachée des âmes, mais aussi porter avec Jésus. Ici, je repense à Galates 6, 2, porter le fardeau les uns des autres et accomplissez ainsi la loi du Christ. Porter le fardeau de l'autre pour le soulager, pour précisément, comme le Samaritain dans l'Évangile, qui voit, est pris de pitié et s'approche, donc par une vraie compassion, peut être beaucoup plus proche de l'autre, de ses vraies souffrances d'âme. Eh bien, en même temps qu'il s'approche, il bande ses plaies, verse de l'huile, du vin, le charge sur sa propre monture et le conduit donc sur un chemin de guérison. Comment donc participer dans la compassion à une œuvre de rédemption? Ne pas, la première chose, c'est de ne pas vouloir porter, je dis une évidence, mais ça fait du bien, de ne pas vouloir porter nous-mêmes ce fardeau. Et pour ne pas porter nous-mêmes ce fardeau, qui, s'il est le fardeau, je dirais, de la vraie détresse de l'âme, finalement, c'est le mal du péché. Il n'y en a qu'un qui a un amour assez puissant pour porter le mal du péché, c'est le Dieu fait homme. Et notre amour humain, notre amour à nous, notre propre amour, on est absolument incapable. Et donc, pour ne pas porter les choses de nous-mêmes, ce qui conduirait à une impasse, il me semble important de souligner le fait que nous n'avons pas à chercher à regarder le mal. Nous n'avons pas besoin de voir le péché de l'autre pour porter quelque chose avec Jésus. Quand je dis devoir, c'est de comprendre, d'essayer d'analyser un petit peu, enfin de se dire qu'est-ce qui ne va pas vraiment dans son cœur, qu'est-ce qu'il vit, tout ça, c'est des questionnements inutiles. Si on ressent un profond mal-être en contact avec une personne, un mal-être spirituel, si la personne, de fait, ne va pas bien spirituellement, le Seigneur ne demande pas d'essayer de comprendre pourquoi, parce que ce serait vouloir sonder les cœurs, mais il nous demande de vouloir de vivre tout de suite ce mal-être avec lui. La souffrance de Jésus sur la croix, c'est d'abord une souffrance d'âme. La souffrance de Jésus sur la croix, c'est Jésus qui ressent, de par la profondeur de son union au Père, et lui seul pouvait le ressentir ainsi, par toute la profondeur de son union au Père, il ressent tout le mal du péché, avec une vérité, une intensité que nous n'éprouverons jamais nous-mêmes. De par cette profondeur d'union au Père, il ressent avec une profondeur que nous ne pouvons pas imaginer, le mal du péché comme séparation d'avec Dieu. Donc quand Jésus dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?», il exprime le fait que son âme ressent effectivement le mal du péché. Il est vraiment l'agneau de Dieu qui porte le péché et plus encore, hein, saint Paul dit que Dieu l'a identifié au péché. Dieu l'a fait pécher, identifié au péché pour que nous-mêmes nous devenions justice. Il prend sur lui ce qui est nôtre pour nous communiquer ce qui est sien, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas libérer les personnes du fardeau de leur péché qui leur fait vivre une détresse d'âme qu'ils ne ressentent pas, comme ils devraient la ressentir s'ils n'étaient pas endurcis par le péché. Et nous ne pouvons pas aider les âmes à être libérées de ce fardeau du péché si nous ne rentrons pas dans l'abandon rédempteur qui est celui que Jésus a vécu pour nous sur la croix quand il a dit « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » après avoir dit « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La dernière parole de Jésus, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit » qui signifie sa victoire par l'obéissance jusqu'à la mort sur la croix. Et donc je dis, quand nous ressentons quelque part un mal-être spirituel face à une personne, ben notre première réaction, c'est de nous... C'est une réaction de défense intérieure parce que c'est une vraie souffrance d'âme. La personne nous met vraiment profondément mal à l'aise. Elle nous fait souffrir peut-être par son esprit de révolte ou d'orgueil. Et à ce moment-là, donc, au lieu de chercher à voir le mal qui est en elle, il faut tout de suite revenir au cœur blessé de Jésus pour trouver dans son abandon la force de porter avec lui. Le fruit de la rédemption, c'est la communion avec Dieu et avec les autres. Mais tant que la rédemption n'est pas accomplie, tant que la personne n'est pas libérée de son mal, il faut accepter qu'il n'y ait pas de vraie communion possible. Écoutez le Siracide. Qui aurait pitié du charmeur que mord le serpent et de tous ceux qui affrontent les bêtes féroces? Il en va de même pour celui qui fait du pécheur son compagnon et prend part à ses péchés. On ne peut pas faire ami avec des personnes qui sont menées par le mauvais esprit. Il faut accepter les limites qu'impose cette maladie spirituelle qu'est le péché, parce qu'il n'y a de communion qu'en Dieu, dans un fond commun, comme aime dire Benoît XVI. Qui touche à la poix sanglue, qui fréquente l'orgueilleux, en vient à lui ressembler, ne te charge pas d'un lourd fardeau. C'est-à-dire, ici aussi, l'Écriture nous fait comprendre que à fréquenter les pécheurs, je dirais, en cherchant un chemin de communion là où la communion n'est pas possible, nous risquons plutôt de nous faire engluer et entraîner nous-mêmes dans le mal. Au lieu de les aider à en sortir. Oui, je dis, quand on a affaire à des personnes qui sont vraiment animées par un mauvais esprit, la seule chose qu'on puisse faire, c'est imiter Jésus dans ce qu'il a fait pour les pécheurs. Les plus grands pécheurs à l'époque, c'étaient les pharisiens. Jésus les appelle fils du diable. Enfin, une partie des pharisiens. Ceux qui étaient viscéralement hostiles à lui. Et on voit que Jésus, moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas cherché à faire ami-ami avec les pharisiens. Mais surtout, on voit que des milliers de pharisiens, après sa mort, se sont convertis. À commencer par des personnes comme saint Paul, donc, qui à un moment était, très, très, très hostile à la foi. Et donc, Jésus lui-même, pour libérer ces personnes de leur orgueil, n'a pas trouvé d'autre chemin que la prière et le sacrifice. Et donc je dis, par rapport à certaines personnes, non seulement ça ne sert à rien de faire ami, entre guillemets, humainement, une sorte de gentillesse humaine, sans discernement, parce qu'on veut être proche des pécheurs, mais il faut, je dirais, rester soi-même, être très, très, très vrai, très ferme, très clair, comme Jésus l'a été, mais par contre, dans son cœur, offrir sacrifice de la prière est le sacrifice de notre mal-être, de ce que l'on ressent douloureusement au contact de ces personnes. Et que l'on ressent toujours plus profondément au fur et à mesure qu'on vit des choses dans la foi et dans l'espérance, dans une complicité de pensée et de sentiment avec le Christ. On ne sauve pas les âmes avec la compassion humaine. Une compassion humaine, encore une fois, sans discernement. Comment pourrait s'entendre le loup et l'agneau ? Ainsi en est-il du pécheur et de l'homme pieux. Quelle paix peut-il y avoir entre la hyène et le chien ? Quelle paix entre le riche et le pauvre ? De même, saint Paul dit : ne formez pas d'attelage disparate avec les infidèles. Quel point commun en effet entre la justice et l'impiété ? Quelle union entre la lumière et les ténèbres ? Quelle association entre le fidèle et l'infidèle ? Ces paroles peuvent être dures, mais en réalité, elles sont le chemin d'une vraie compassion. Qui nous fait renoncer d'abord à une fausse communion. Et d'accepter de ressentir jusqu'au bout la souffrance du mal-être que Dieu nous donne de ressentir, de ne pas chercher à gommer les choses en excusant, tout ça, mais de vivre ça dans le secret, de porter ça avec Jésus et de croire qu'il y a un travail dans le secret des âmes qui peut se faire. Que d'énergie, que de fatigue de ma part comme jeune prêtre pour aider humainement des personnes qui n'avaient pas besoin d'un autre service que celui de la rédemption. C'est souvent, vous voyez, quand on fait du bien à des gens qui sont mauvais, qui se retournent contre nous. Et en fait, on leur rend pas du bien humainement, je veux dire. On leur rend pas service en essayant de répondre à des attentes, à des attentes humaines, mais qui sont faites dans un mauvais esprit. Où ils cherchent au fond à abuser de notre gentillesse chrétienne. Ben oui, j'ose le dire. Et donc, que faire ? Eh bien, que faire ? Eh bien, prier et souffrir. Prier et porter avec Jésus. Mais pas se gaver de béats inutiles. Il faut laisser Jésus nous guider dans nos relations et ne pas se donner un droit de lier amitié avec qui on veut. On ne connaît pas le fond des cœurs. Il faut remettre notre carnet d'adresses au pied de l'autel. Laisser le bon Dieu faire le tri. Mais ça ne veut pas dire ne abandonner les personnes, ça veut dire avoir un autre mode de relation avec elles, basé essentiellement sur la communion des âmes. Comme dit l'Écriture, pour voir l'insensé attend l'occasion. On connaît des gens qui ont vraiment un mauvais esprit, leur fréquentation ne nous fait pas du bien, et souvent ils nous entraînent plutôt dans leur mauvais esprit plutôt que nous on les entraînerait dans le bon esprit. Eh bien, suivez le Siracide pour voir l'insensé attend l'occasion. Pour aller voir l'insensé attend l'occasion. Ne pas y aller de nous-mêmes en disant « Ah, mais le malheureux, le pauvre, il faut que j'aille le voir. Ah oui, mais c'est un ami. Ah oui, ah bon, non. » Pas de l'affectif comme ça.